Pop-hopienne, pop-hopien et tous les autres aussi, bonjour. Pour tous ceux d'entre vous qui aiment l'aventure épique, les films qui, sous couvert plus ou moins allégorique, en passant par la case montagne russe narrative et visuelle, vous parlent très directement du monde dans lequel nous vivons, la journée de mercredi sera marquée d'une pierre blanche, comme on dit, ou plutôt une journée qui fera date, puisqu'il y est beaucoup question de sable, de désert et donc de palmiers. Oui, c'est grâce aux palmiers que nous avons des dates. Alors non, Dune, puisque c'est évidemment de la sortie de Dune façon Denis Villeneuve que je parle, n'est pas à proprement parler une comédie. On est très loin du gendarme à Saint-Tropez. On est très loin de Saint-Tropez, tout court d'ailleurs, mais en direction le temps, quelque part dans les années 10 000 et l'espace, à des années-lumière, au cœur de cet univers déjà approché par David Lynch, rêvé par Alexandro Jodorowsky, au plus près de la matrice d'un récit qui a lui-même eu une influence profonde, déterminante sur la pop culture. Mercredi est donc une journée capitale pour des générations passionnées, intriguées, captivées par ce roman qui, en jonglant avec les mythes fondateurs, en est devenu un à son tour. Le voici devenu un film pour la seconde fois et c'est la bonne, c'est de la bombe. Écriture, réalisation, casting, musique, direction artistique, apprêtez-vous à en prendre plein les mirettes. D'ailleurs, c'est le titre de cette émission dans laquelle nous nous en tiendrons avec Denis Villeneuve lui-même après s'être mis en jambe avec un homme qui connaît l'histoire mieux que personne, Nicolas Allard. Plein les mirettes, c'est le titre de ce pop-pop-pop.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine de Gaulle.
Bonjour Nicolas Allard.
Bonjour Antoine.
Bienvenue dans ce studio. Nicolas, vous êtes professeur agrégé de lettres modernes en classe préparatoire, spécialiste de pop culture et vous venez nous expliquer pourquoi Dune est un chef-d'œuvre de la science-fiction. Et ça tombe bien car vous publiez un livre intitulé Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction. On peut dire que la vie est bien faite.
Oui, vous voyez, oui. C'est parfait. Je crois qu'on ne pourrait pas dire mieux.
Chef-d'œuvre, vous mesurez bien le poids de vos mots.
Oui, tout à fait. Et même en comparant avec d'autres grandes œuvres plus classiques de la littérature française que j'ai l'occasion d'enseigner à mes étudiants, vraiment, je maintiens que Dune est l'un des plus grands romans de l'histoire de la littérature.
Et un chef-d'œuvre tout court.
Et un chef-d'œuvre tout court.
De faire des tiroirs avec science-fiction.
Oui, on peut le dire parce que justement, c'est aussi une œuvre qui est appelée à être adaptée au cinéma, et ce qui est le cas ici avec Denis Villeneuve. Et lorsque Frank Herbert a composé son œuvre, il avait déjà conscience que ça pouvait devenir autre chose qu'un livre et peut-être un grand film.
D'où vous vient, Nicolas, cette noble passion pour ces sagas épiques? Parce que vous êtes aussi l'auteur d'ouvrages sur la Guerre des Étoiles ou évidemment sur Game of Thrones. Pourquoi ces récits plutôt que Christine ou Pierre-Emmanuel Schmitt?
Peut-être parce qu'ils sont déjà divertissants en soi. Et puis c'est vrai que je fais partie d'une génération, je suis né dans les années 80, qui a grandi avec la pop culture en fait. Et c'est vrai que tout en lisant des textes de littérature, j'ai grandi en regardant avec mes frères Dragon Ball Z, la saga Star Wars, ensuite Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Et par ailleurs, ce sont des œuvres artistiques qui ont une dimension littéraire. Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre littéraire à l'origine. Et La Guerre des Étoiles de George Lucas a été composée en 500 inspirant d'œuvres littéraires, dont Dune justement. Donc finalement, en s'intéressant à la pop culture, on s'intéresse aussi à la littérature. Il n'y a pas une incompatibilité à parler des deux univers.
Alors Charline et moi qui avons eu la chance d'assister à une projection de Dune, on en est sorti littéralement soufflé. Elle vous le répétera dans quelques instants. Et vous, dans quel état êtes-vous, vous, le fan ultime à 36 heures de la sortie?
Je suis déjà extrêmement jaloux que vous ayez vu le film avant moi. J'espère que vous n'allez pas me spoiler pendant l'émission. Mais sinon, je suis extrêmement impatient, bien sûr, comme beaucoup de monde. Parce que déjà, c'est le film, je pense, le plus attendu de cette rentrée culturelle, en tous les cas quand on aime la pop culture. Et puis aussi, c'est un film qui connaît qui a une histoire assez particulière parce que Dune est considéré comme une œuvre maudite au cinéma. Il y a eu plusieurs tentatives d'adaptation qui n'ont jamais donné lieu à un véritable film, dont celle de Jodorowsky dont vous parliez tout à l'heure. Et puis le Dune de David Lynch a été une adaptation très peu satisfaisante, voire un véritable échec. Donc c'est vrai que ce film-là de Denis Villeneuve est attendu depuis longtemps. Denis Villeneuve, c'est un fan du roman depuis qu'il est jeune et qu'il a véritablement envie de proposer une œuvre de grande qualité.
Non, c'est une vision,
c'est
vraiment un film de commande.
Voilà, je pense que c'est vraiment sa vision. Et c'est vrai que les fans de Dune, je pense, depuis de nombreuses années, sont un peu frustrés parce que c'est une œuvre qui n'a pas réussi à s'étendre beaucoup, à développer un univers étendu, comme c'est le cas par exemple pour Star Wars qui est une œuvre finalement assez proche.
Alors, balle neuve pour le fameux Dune, nous allons développer tout ça dans un instant avec Charline, qui est un peu la dame Jessica de Pop-Pop-Pop. Nicolas Allard, en guise de teaser, si vous deviez résumer Dune en trois mots. Je sais que c'est une tâche impossible.
Mais... Oui, alors c'est une œuvre très complexe, mais si vraiment on voulait choisir trois mots, je dirais désert, parce que ça se passe dans le désert. Je dirais également guerre, parce que c'est une dimension épique très présente dans Dune, un peu comme la guerre des étoiles, justement. Ouais. Et puis, je dirais également tragédie, parce qu'il y a une dimension tragique et familiale qui rend cette œuvre d'une très grande complexité, également d'une dimension émotionnelle très très forte.
Merci, j'avais dit trois mots. J'en ai trois. Nous allons en reparler de Dune et de son héritage dans la pop culture jusqu'à 17h avec cette émission spéciale. Ce sera juste après un morceau qui n'a aucun rapport avec Dune, si ce n'est d'être sorti la même année, en 65. C'est les Beatles qui cartonnaient. Frank Herbert a eu un peu plus de mal au début, mais ça s'est rangé par la suite. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Aidez-moi, Charline. Oui, car vient de nous rejoindre Charline Roux. Bonjour, Charline.
Bonjour.
Nicolas Allard, vous publiez Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction, c'est le titre de votre livre, aux éditions Duneau. Mais avant de revenir en 2021, allons faire un tour en l'an 10191, le début du Dune original de Frank Herbert.
Oui, puisque Nicolas Allard, vous le dites en préambule de votre livre très érudit, Dune reste à ce jour le roman de science-fiction, enfin la saga la plus lue au monde, et pourtant rien ne prédisposait Herbert à publier ce monstre littéraire, même pas ses influences, parce que si Frank Herbert était effectivement un grand lecteur, il était plutôt branché Shakespeare, Proust, et Maupassant, qu'est-ce qui l'a fait dévier?
C'est vrai, et à l'origine, il n'avait pas envie d'ailleurs d'écrire un roman de science-fiction, et c'est simplement parce qu'il était fasciné en fait par l'idée de proposer une œuvre qui se déroule dans un désert avec des hautes technologies. Donc c'est ça qui l'a conduit.
Ça le passionnait, ces histoires de désert.
Exactement. Ouais. Oui, il avait écrit un article sur le désert américain, notamment une tentative de scientifiques de l'époque de limiter l'avancée du désert, et donc il s'était beaucoup documenté à ce sujet, et ensuite il a eu envie d'écrire un roman dans lequel le désert serait presque le personnage principal, mais avec des hautes technologies, des technologies avancées. Donc c'est ce qui l'a amené à écrire un texte de science-fiction.
Nicolas, si on vous demandait de pitcher, comme on dit, Dune à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler,
oui,
vous imaginez ça comment?
C'est pas évident, mais si on voulait être très, très, très schématiquement résumé, donc ça se passe dans le futur de l'humanité. Les hommes, à cette époque-là, ont quitté la Terre depuis longtemps, ont colonisé plusieurs planètes, et ils vivent tous dans un même ensemble politique qui s'appelle l'Imperium, donc qui est dirigé par un l'empereur, un peu comme dans Star Wars. À la différence de Star Wars, c'est qu'ici, il y a plusieurs contre-pouvoirs, avec notamment de grandes familles, un peu cette fois-ci comme dans Game of Thrones. Et ces grandes familles-là, justement, vont s'opposer les unes aux autres. Il y a des luttes de pouvoir. Le personnage principal s'appelle Paul Atréides.
C'est tragique, c'est très shakespearien.
Ah oui, complètement, oui, avec la tragédie des Atrées. Donc là, il y a une référence mythologique. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, dans Dune. Et donc, lui et sa famille vivent sur une planète qui s'appelle Caladan. Ils vont devoir la quitter pour aller vivre sur la planète Arrakis, qui s'appelle également Dune, parce que c'est une planète totalement de sable. Suite à la décision de l'Empereur, l'Empereur leur demande d'aller occuper cette planète comme nouveau fief. Et en réalité, les Atrides sont conscients qu'il s'agit sans doute d'un piège, parce que c'est la planète de leur ennemi juré, les Harkonnen, qui l'ont occupée pendant de nombreuses années. Cette planète a une particularité, c'est qu'on trouve sur celle-ci...
Je vous ai dit de me le résumer.
Très rapidement, on se trouve sur celle-ci, l'épice, qui est la substance la plus recherchée dans tout l'univers.
Ouais. Alors, pendant qu'on y est, profitons-en pour faire un petit précis de vocabulaire dunien. Est-ce que vous pouvez nous replacer la sororité Bene Gesserit, replacer la famille Atreides sur cet échiquier, nous parler de l'épice plus en détail et bien sûr expliquer ce qu'est Shai Ulud et ce dans l'ordre de votre choix.
J'ai 4 heures, c'est ça?
Non.
Alors, très rapidement, les Bene Gesserit, donc c'est une organisation purement féminine que l'on peut rapprocher, pour simplifier peut-être, de ce que sont les Jedi dans Star Wars. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont développé des capacités physiques et sensorielles qui sont au-dessus de la moyenne, ce qui leur permet d'avoir justement un don de préscience, d'être extrêmement redoutable au combat. Donc ça, ce sont les Bene Gesserit.
Oui, bah,
et Charline en est la plus grande illustration, je crois.
Bien sûr.
Par ailleurs, Shai Ulud, donc c'est le nom que la population locale de Dune donne au Vert des Sables, parce qu'effectivement, c'est un univers dans lequel il y a très peu d'êtres vivants sur cette planète inhospitalière, mais il y a des vers de sable géants qui peuvent faire entre 300 à 400 mètres.
Un gros danger, hein, pour le coup.
Oui, un gros danger. Effectivement, il vaut mieux pas trop traîner dans les parages quand il y en a un. Et ce sont des créatures qui sont vénérées, effectivement, par la population locale. Donc, les Atreides, c'est une famille qui est extrêmement puissante et dont vient le personnage principal qui s'appelle Paul et qui a une quinzaine d'années au moment où le roman et le film débutent.
Vous voyez qui répond à vos questions.
Ouais, mais non, mais je n'avais aucun doute là-dessus. Et attelons-nous tout de suite à faire tomber un mur entre deux œuvres de taille de la pop culture. Vous l'avez abordé il y a un instant, mais il y a un titre de vos chapitres qui s'appelle « Star Wars, je suis ton père ».
Oui.
Est-ce que vous pouvez développer ?
Oui, parce qu'en fait, Dune est la source d'inspiration principale de Star Wars pour George Lucas. Ce qui est intéressant, c'est que Frank Herbert, quand il est allé voir le premier film Star Wars en 1977 au cinéma, il a reconnu 16 points d'identité absolue entre son roman et et le film de George Lucas. Il a même songé à un moment donné à attaquer George Lucas en justice, puis il s'est rendu compte que Star Wars avait quand même d'autres sources d'influence et que c'était pas simplement une adaptation de Dune. Mais comme je le montre dans mon livre, pendant longtemps, peut-être jusqu'à ce jour et la sortie du film de Denis Villeneuve, l'adaptation la plus satisfaisante de Dune en un sens, c'était La Guerre des Étoiles.
Ouais. Oui. Denis Villeneuve parle d'ailleurs de Dune, de son film, comme d'un Star Wars pour adultes. Enfin, pas au sens de film de boule, hein, du terme. C'est un bon angle, selon vous ?
Oui, c'est un bon angle, parce que effectivement, l'univers de Dune est moins manichéen que celui de Star Wars. C'est un peu plus complexe. Il y a en même temps un personnage principal qui est torturé. On pourrait dire que Paul Atreides, c'est une sorte de Luke Skywalker qui se prendrait souvent la tête sur des sujets un peu compliqués, qui serait pas tout à fait bien dans sa peau. Et donc, effectivement, c'est plus un Star Wars pour adultes. Il y a une dimension plus enfantine dans Star Wars, mais qui était voulue par George Lucas. Ici, c'est quand même pour un lectorat et des spectateurs plus âgés.
Est-ce qu'il y a d'autres grandes œuvres de pop culture ou non dans lesquelles Dune trouve écho ?
C'est une très bonne question. Il y en a d'autres.
Ça, on dit ça quand on veut avoir le temps de réfléchir.
Exactement. Et là, le fait que vous m'ayez interrompu fait que je n'ai pas le temps de réfléchir, donc je vais devoir inventer quelque chose.
Vous voulez que Charline vous repose la question?
Non, en fait, plus globalement, Dune a inspiré ensuite toutes les œuvres qui, comme Star Wars, justement, se revendiquent de la space fantasy ou du space opéra. Donc, en fait, toutes les œuvres qui peuvent s'en rapprocher. Mais effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, Game of Thrones est souvent considéré comme un héritier potentiel de Dune. Notamment cette question des grandes familles qui parfois ont d'ailleurs des liens familiaux entre elles alors qu'elles sont opposées de manière très très forte. Et il y a également une chose que l'on retrouve dans Game of Thrones et qui est présente dans Dune, c'est la surprise, parce que ce sont des récits qui s'appuient beaucoup sur la surprise et les coups de théâtre.
Dune, pour ses fans assidus, c'est un fantasme de cinéma avec une histoire, on l'aura compris, extrêmement compliquée. Est-ce que sur le papier, c'est inadaptable ?
Sur le papier, ça paraissait inadaptable. En tous les cas, ça l'était si on partait du principe que c'était simplement un film. Et Denis Villeneuve, qui connaît très bien le roman, effectivement, a décidé d'en faire deux. Mmh. Ça, c'est une excellente idée. Et puis, par ailleurs, ce qui je pense l'a beaucoup aidé, c'est le développement des technologies. Quand on voit le film de David Lynch, il y a aussi un problème qui est tout simplement technique, qui est lié au fait que les effets spéciaux n'étaient pas d'assez bonne qualité à l'époque. Mmh.
Le roman Dune, est-ce qu'on peut aussi l'envisager comme une grande fable écolo ?
Oui, totalement. Et d'ailleurs, Frank Herbert était lui-même l'un des premiers écrivains écologistes de l'histoire. À la même époque, il a écrit d'ailleurs un roman qui s'appelle Le cerveau vert et qui est un grand texte écologique. Et il était impliqué dans les premiers mouvements écologiques aux États-Unis. Et d'ailleurs, sur les campus américains, le succès du livre dans les années 60-70 vient du fait que c'est perçu effectivement comme une grande fable écologique.
Avec des résonances incroyables sur ce que je disais en ouverture sur l'époque contemporaine.
Totalement.
Aussi bien du point de vue religieux, métaphysique, géopolitique.
Oui, tout à fait. Et par exemple, pour l'écologie, Frank Herbert était persuadé que si l'être humain continue à exploiter les énergies fossiles, il allait transformer sa planète en immense désert. Ouais. Et d'ailleurs, il a déjà eu l'occasion de dire que Dune, c'était la métaphore de ce qui nous arriverait si nous continuions comme ça.
Et il avait vu juste, j'ai l'impression, non ?
J'ai malheureusement...
C'est ce qu'il vous reste à faire. Moi, je maîtrise la voix. Hein. Après, si vous voulez votre place dans l'histoire, Antoine.
Est-ce que ça n'est pas agréable, Charline, d'avoir un véritable expert ?
Ah oh bah si, c'est fascinant.
Moi je vois des experts qui défilent toujours sur des plateaux avec des points de vue très généraux. Vous, c'est vraiment votre passion et votre sujet d'étude.
Oui, totalement. Oui, c'est vrai que c'est une passion et je suis très heureux d'être là avec vous pour en parler aujourd'hui parce que c'est non seulement j'apprécie l'émission, mais c'est vrai que parler de ces grandes œuvres, je crois que c'est très important parce que tout en étant des œuvres de divertissement, elles ont toujours une grande résonance dans le monde qui est le nôtre. Ouais.
Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction, c'est signé Nicolas Allard, notre invité qui faisait aujourd'hui la première partie de Denis Villeneuve. Bravo. Et c'est édité chez Dune. Vous avez choisi, bien entendu, l'éditeur en fonction, non ?
Bien sûr, c'était un jeu de mots facile, c'est vrai, mais c'était un jeu de mots recherché.
J'en profite pour signaler également un autre objet pop indispensable pour les fans, c'est Dune, le MOOC, signé par Lloyd Sherry, auquel vous participez également. J'en profite pour vous annoncer aussi que les éditions Robert Laffont rééditent la version originale de Dune avec une préface de Denis Villeneuve, notre invité. Denis Villeneuve dans Pop Pop Pop, c'est un événement pop et c'est dans 2 minutes, juste après Polaris, le nouveau morceau signé Damon Albarn.
If you get blown off course and filling in the parts of your life that have disappeared, medicating, quick step reflections in the dark mirrors of our life. Take care.
France Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Avec Charline Héroux. Il reste
c'était
deux...
qui comme personnage?
Il reste deux dodos avant de découvrir Dune, cette pépite pop signée Denis Villeneuve. Nous avons rencontré avec Charline Héroux le réalisateur, mais avant de découvrir cet entretien, laissez-moi vous plonger dans l'ambiance du film tant attendu.
The test is simple. Remove your hand from the box and you die.
What's in the box?
Pain. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others. Something none of your ancestors learned.
My father rules an entire planet.
He's losing it.
Dune, c'est un projet dont vous rêviez depuis très longtemps, depuis l'âge de 12 ans, si on ne dit pas de bêtises. Votre première lecture du roman d'Herbert, un roman, une saga qui ne vous ont jamais quitté depuis votre première rencontre. Comment est-ce que son image a infusé, a évolué en vous au fil des années?
C'est effectivement un roman qui, dont une des qualités, c'est qu'on peut le revisiter à différents moments de notre vie, puis y voir des choses à chaque fois, y découvrir des angles ou des sujets qui nous touchent selon où on est rendu dans la vie. Au tout départ, moi évidemment, c'était la quête de Paul Atreides, ce personnage qui en vient à se départir, à se libérer du joug d'une accumulation d'héritage familial, génétique, politique, religieux, et qui en vient à la rencontre de lui-même, au contact d'une autre culture. Donc c'est ça qui, au départ, je pense, qui m'a séduit, c'est ce personnage, sa curiosité vers l'autre, ce désir de l'ailleurs, cette rencontre de cette culture absolument incroyable qui a été inventée par Frank Herbert, qui est la culture fremen, de ce peuple du désert. Moi, ça m'avait absolument, à l'époque, au début, jeune adolescent, fasciné. Par la suite, j'ai vu en relisant le roman plus tard, c'est plus l'idée des Bene Gesserit, cette idée d'une congrégation féminine qui dirige l'humanité vers de meilleures destinées, c'est-à-dire qu'ils essaient d'améliorer l'humanité, de l'amener vers un monde meilleur, tout en utilisant le temps comme arme principale. Je trouve ça c'est très fort, et surtout cette idée que ces femmes sont en relation avec leur mémoire du passé, la mémoire génétique du passé, cette mémoire qui en tant qu'être humain nous façonne de manière inconsciente, nous entrave ou nous dirige de façon inconsciente. Elles sont capables d'être en relation avec ces voix et de faire la paix avec elles et d'en retirer des leçons pour mieux se diriger dans le futur. Il y a quelque chose dans cet aspect-là qui plus tard m'a beaucoup intéressé. Mm-hmm. Bon, il y a tout aussi l'apport, l'exploration de l'écologie, de la biologie, qui a inspiré le roman au départ. Moi, qui étais étudiant en biologie, ça me fascinait qu'on puisse créer un monde, qu'on puisse écrire un drame, une histoire, à même ce paysage scientifique-là. Je veux dire, ça m'avait vraiment fasciné à l'époque et excité. Je veux dire, les écosystèmes, la façon dont Frank Herbert a décrit son monde, le souci du détail, et un réalisme dans ces éléments-là. On n'est pas dans une fantaisie, on est plus vraiment comme dans une exploration d'un monde qui nous semble dangereusement réel. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui m'avait vraiment profondément séduit à l'époque.
Denis Villeneuve, ne répondez pas d'un seul coup, s'il vous plaît, à toutes les questions qu'on a à vous poser. Ouais, quels sont les points communs entre le Dune que vous avez lu pour la première fois quand vous aviez 12 ans et celui que vous réalisez la cinquantaine passée? Est-ce que vous y avez retrouvé les rêves de votre...
Mais c'était mon objectif, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'ai fait un film pour un public plus large. Savoir, j'ai fait des films, ce qu'on dit en anglais, rated R, c'est-à-dire qu'ils sont pour adultes seulement. Là, j'avais envie de faire un film pour plus grand public. À savoir, je me suis dit, j'ai été séduit, happé par ce roman quand j'avais 13 ou 14 ans. j'avais envie que le film s'adresse aussi à un public plus jeune, c'est-à-dire à quelqu'un qui aurait cet âge-là, qui pourrait être intéressé à découvrir le roman. Mon objectif, c'était d'entrer en dialogue avec cette part de moi qui avait lu le roman dans le passé, c'est-à-dire cet adolescent qui rêvait grand, qui était très arrogant, prétentieux, et qui avait rêvé le roman. C'était un processus difficile dans la mesure où, au final, il y avait cette idée de faire en sorte que les amateurs du roman, les grands amateurs du roman, retrouvent les atmosphères, les couleurs, les descriptions, la poésie, la richesse du roman quand même qu'on concentre. Bon, quand on fait une adaptation, nécessairement, c'est un acte un peu violent, c'est-à-dire qu'on transforme. Oui. Mais j'avais envie quand même de préserver le plus possible qu'on sente que le film est vraiment un geste d'amour vis-à-vis du roman. Mm-hmm. Pour ce faire, j'avais pas envie de penser aux milliers de fans du roman, mais plus, j'ai plus eu juste à négocier avec moi. C'était déjà beaucoup. C'est ça. Ça a été une des grandes difficultés de l'adaptation, je dirais. C'était justement de faire en sorte de satisfaire cette part de moi, et tout à la fois de rendre le film accessible à un public qui n'aurait pas lu le roman.
Et est-ce que le background d'étudiant en biologie dont vous parliez il y a un instant vous a aidé, notamment pour la conception de Chat et Ouloud?
Complètement. L'idée, c'était de faire comme Frank Herbert, c'est-à-dire que lui... Bon, le roman est né d'une observation. Il est allé écrire un papier scientifique sur une expérience écologique où des chercheurs essayaient de contrôler des dunes de sable en Oregon, des dunes, et en plantant une plante dont les racines allaient pouvoir contrôler au fur et à mesure de la progression des dunes. Il y avait cette idée de... Et c'est à travers cette observation de scientifique essayant de danser avec la nature, comme ça, qui lui est venue l'idée du roman. Et donc, cette préoccupation scientifique qui est toute présente dans la construction du roman, j'ai voulu, avec mon directeur artistique, partir dans cette même logique-là, embrasser cette logique de s'inspirer de la nature, que la nature domine le film, et que donc tout le design du film, les écosystèmes, tout j'ai essayé de conserver cette même approche.
Dans quel état d'esprit est-ce qu'on s'attaque à un tel monument qui plus est, quand c'est un fantasme depuis longtemps, comme vous le disiez, et qui en outre a une histoire très particulière au cinéma entre projet avorté et film renié?
Bon, la vérité, quand j'ai senti que j'étais prêt techniquement à faire le film, c'est-à-dire parce que c'est quand même, ça me demandait à moi un certain savoir-faire technique pour amener ce film à l'écran, et aussi au niveau de l'écriture, je sentais que j'avais finalement, je commençais à un peu plus maîtriser certains outils. J'aurais pas pu m'attaquer à ce film, à ce projet il y a 10 ou 15 ans, mais là je sentais que j'avais, et que surtout les moyens aussi pour le faire. Je me suis dit que la façon de le faire, ça serait de complètement focusser sur le roman, de conserver les mots de Frank Herbert tout près de moi, que le roman devienne carrément notre bible. Je parle de notre bible, à mon équipe, c'était le mot d'ordre. Tout le monde devait évidemment lire le roman et à constamment se référer au roman, d'essayer de s'en rapprocher le plus possible. J'avais envie que l'adaptation soit un geste, si j'oserais dire, un geste d'humilité vis-à-vis du roman. J'avais pas envie de m'exprimer moi-même, et plus de rendre la parole d'Herbert à l'écran. C'est comme donc je me suis mis complètement en vase clos, c'est-à-dire que j'ai pas réfléchi, c'est-à-dire je me suis pas mis à angoisser par rapport aux tentatives qui avaient été faites précédemment. Je sentais qu'il y avait un film possible, un film que j'avais pas vu, un film que j'avais pas vu, j'avais pas vu Dune à l'écran. Quand j'ai vu le film de Lynch, que j'ai vu quand j'étais adolescent, il y a plusieurs éléments que j'avais beaucoup aimé dans le film. Lynch, c'est quand même c'est un des grands maîtres des 50-60 dernières années. C'est quelqu'un qui mais j'avais pas vu le roman. Il y avait des écueils, il y avait des choses où je sentais que c'était c'était pas en phase avec ce que j'ai, l'imaginaire du roman. Donc, à l'époque, je me souviens de m'être dit, non, c'est pas encore là. Donc, il y aura quelqu'un, je m'étais dit à l'époque, il y a quelqu'un qui va, ça va être refait. Un jour, il y a quelqu'un qui va se réattaquer à Dune et je me souviens, parfois, ça m'était arrivé, à Los Angeles d'entendre parler que, Dune revenait. Au fil des années, je me dis, oui, c'est sûr que quelqu'un va revenir. Ça aurait pu être Ridley Scott ou quelqu'un d'autre, ou je sais pas, qui aurait pu le ramener. Mais c'est au final, c'est fou ce que la vie fait. Parfois, mais c'est moi.
Et ce mois, c'est donc Denis Villeneuve. Pop break dans ce pop-up spécial Dune avec Denis Villeneuve. Donc, nous retrouverons dans quelques instants. En attendant, il est 16h35. C'est l'heure des pop news.
Après Braqueur, le film signé Julien Leclerc, voici Braqueur, la série, avec le même à la manœuvre. Et Samy Boisgila, pro du braco, a une nièce qui déconne un peu et contrarie quelque peu un baron de la drogue. Alors il se voit proposer le marché suivant.
Qu'est-ce que tu veux? T'as une équipe?
Il y a 300 kilos de coke qui arrivent sur le port d'Anvers. Je veux les braquer pour moi.
Les gars, si je veux récupérer ma nièce, faut que je braque cette coke, j'ai pas le choix.
Avec un plan que t'as fait en 2-2 et une bande de gamins que tu viens de rencontrer.
Si t'es pas sûr, tu peux toujours changer d'avis.
Je suis déter.
Et Braqueur, la série, ce sera le 24 septembre sur Netflix.
Ça s'est passé en ce lourd week-end de commémoration à New York. On honorait la mémoire des disparus du 11 septembre et c'est avec la grâce et la classe que l'on sait que celui qu'on ne nomme plus a chanté ceci.
May God bless our fallen brothers and sisters, their families, their friends and their loved ones. He says, I'll see you in my dream. Seeming without end, the days go on, but I'll remember you, my friend. And though you're gone, in my heart,
Bruce Springsteen et cette version de I'll See You in My Dream, extrait de Letter to You, c'est évidemment notre vidéo du jour à retrouver sur le compte Twitter 3615 popopop.
Thomas Anderson, plus connu sous le nom de Neo, a tout oublié de la Matrice, mais il fait des rêves étranges dont il parle à son psy. C'est en quelque sorte le point de départ de Matrix Resurrections, réalisé par Lana Wachowski. Et puis vous savez comment il est, Thomas, enfin, qui est nous une pilule et ça repart.
Thomas, you seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened?
I've had dreams that weren't just dreams.
Am I crazy? We don't use that word in here. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix.
Et ce quatrième Matrix sortira le 15 décembre dans les salles.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Yeah, that's me.
Samy Boisgila?
Non, Néo, bien sûr, Denis Villeneuve. Deuxième chapitre dans Pop, c'est dans un instant. Nous parlerons avec le réalisateur canadien de Dune, évidemment, mais aussi de pop culture. Tout ça, ce sera juste après I Love You, I Hate You. C'est un morceau signé de la rappeuse anglaise Little Sims.
So much, I would give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. How many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try for this. What's at stake is bigger than me. Blood, tears, how it stains, can't rid it with ease. What we have in common is our pain. We're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in. Hard to confront the truth of what you see in the mirror. Some people you inspire and others you trigger. Fighting a blind faith led by the internal voice. You might not wanna do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights or be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me doing everything right. But who am I to tell anyone how to live their life? Your pain, fresh hope will determine if you survive. I'm amazed by it. Lying to myself, pretending I was never fazed by it. Maybe cause you're in my DNA, that's why. Sometimes, always, but right now you made the promise to God to be there for your kids. You made the promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you gotta find all the answers to your sins. Pressures of provider feeling unhappy within. Or what kind of external family shit up on your plate. But I understand wanting and needing an escape. Too much unsaid, now the silence giving me headaches. Only through speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't wanna be disrespectful. Trying to figure out how to approach this in the best way. Hard to look out with these feelings even on my best days. Never thought my parents would give me my first heartbreak. Anxiety giving me irregular heart rate. Used to avoid getting into how I really feel about this. Now I see how fickle life can be and so it can't wait. Should have been the person there to hold me on my dark days. It's easier to stargaze. I wish then be faced with this reality. Is you a sperm donor or a dad to me and still? You live and learn. The world don't show you no mercy from birth. How do you humanize your hero? Grounded, you're only respected if earned. Half-hearted stories can't let your guard down. To get to Nirvana, where do you start out? Angry because they don't meet your unrealistic standards. Then you realize that they're human and you calm down. Sometimes I'm unbalanced and I think, raw, why am I losing my steps? Lately I'm paranoid, I feel my life is a mess. I'm just using my voice, hope it will have an effect. He was just once a boy, often I seem to forget. Looking at Polaroids, a picture secretly kept. You know what was destroyed, but you don't know what was left. Trying to phase out the noise of all you hear in your head. Everything is a choice and anything can be said. Is you missing the point? Are you just hearing me vent? Or is you in understanding, knowing my words will connect? I keep you in my prayers, cause life is short as we know. Every mistake you make should contribute to your growth. What you choose to avoid will probably come in your dreams. I'm not forgiven for you, man, I'm forgiven for me. And sometimes, 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 always.
Little Sims, I love you, I hate you. Cet extrait de l'album Sometimes I Might Be Introvert. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite aujourd'hui la culture de façon.
My father rules an entire planet. He's losing it.
Car oui, nous avons rencontré avec Charline Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune, le film événement qui arrive au cinéma ce mercredi. Suite de l'entretien, tout de suite. Est-ce que vous avez réussi à vous tenir aussi à l'écart de l'influence de tous les artistes, et pas des moindres, qui s'étaient intéressés à Dune? Je pense à Mebius, à Giger, à Chris Frost ou à Sue Mac. Est-ce que c'était un encombrant ou pas?
Tous ces gens que vous avez nommés sont des sources d'inspiration pour moi. C'est-à-dire que je dirais que... je suis probablement ici avec vous aujourd'hui à cause de Métal Hurlant, que j'ai découvert enfant par un accident, je dirais, qui était comme si on donnait une drogue psychédélique à un enfant, puis que son cerveau redevient. J'ai vraiment été heureusement choqué, dans le bon sens du terme, par ces auteurs. Donc, quand je crée un film comme Dune, j'essaie de me départir de toute forme d'influence. Mais en réalité, la vérité, c'est que je suis profondément influencé par tous ces gens. Donc, je suis le produit de tous ces imaginaires. Ces gens ont défriché la science-fiction d'une façon absolument phénoménale dans les années 70. Dans les années 70, un espace de création assez fulgurant qui encore aujourd'hui m'inspire. Puis, je veux dire, quand j'étais avec Hans Zimmer en train de faire la musique du film, à côté des synthétiseurs de Hans, il y avait toute la collection de Druillet. Je veux dire, c'est comme on est profondément inspiré par ces auteurs. Donc, si on me demandait c'est quoi tous ces gens, je veux dire, moi, les images de Sud Mac m'ont accompagné tout au long, pas pour comme source d'inspiration principale, mais plus comme une référence bienveillante, comme comme une boussole pour me guider, pour savoir que, ou si je m'en vais dans la bonne direction, il y a quelque chose. Et c'est des auteurs qui me rassurent. C'est des auteurs qui m'inspirent. Et donc, j'essaie pas de puiser chez eux, mais plus de c'est comme je pourrais dire que je suis comme un instrument que je me fais accorder par ces autres. Je sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je dis, mais il y a vraiment quelque chose où je sens, que je travaille dans la bonne direction en me référant à eux, ouais.
Un peuple opprimé, une terre malmenée par pur profit, un jeu d'influence notamment mené par des femmes, de la trahison, une chaleur accablante, des épisodes météo extrêmes, une politique collective floue, des tribus hostiles. Êtes-vous sûr que Dune est vraiment un film de science-fiction?
Oui. C'est fou comment le roman, malheureusement, est devenu plus pertinent aujourd'hui. Ce que Frank Herbert avait, quand il a écrit, c'est une des choses qui est vraiment impressionnante quand on lit le roman, c'est qu'on sent vraiment qu'il a fait comme à l'époque, c'était une espèce d'instantané, un portrait d'une certaine partie du 20e siècle, les courants de fond. Mais ces sillons-là se sont creusés, se sont exacerbés, le roman est devenu, c'est ça, malheureusement plus pertinent aujourd'hui.
Ce n'est pas vous, Denis Villeneuve, qui avez choisi Dune, c'est Dune qui vous a choisi. Dites-vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti à chacun de vos films?
Oui, c'est juste que quand je regarde, bon, j'assume tous mes films. Les films, c'est comme des tatouages dans son visage. Je veux dire, vraiment, c'est comme, mais il y a toujours quelque chose d'étrange dans comment les films se présentent à moi, comment que c'est comme chaque projet est une rencontre. C'est-à-dire qu'on voit un projet qui arrive et il y a comme une pulsion très forte. Et qui, bon, justement, on me dit, mais est-ce que t'as eu peur? Est-ce que tu as angoisse? Pourquoi tu fais ce film? C'est pas que de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est comme un sentiment que ça doit être fait. Et que c'est comme, il n'y a pas de condition, il n'y a pas d'hésitation. Je veux dire, c'est comme un sentiment profond que j'essaie pas de me protéger. C'est-à-dire que je fais le projet, en mettant tout sur la table et en risquant tout et avec une incroyable sérénité. J'ai fait la même chose avec on m'a beaucoup posé de questions par rapport à mon projet précédent Blade Runner 2049 qui était comme une proposition assez je parle de faire la suite d'un des grands chefs-d'œuvre du cinéma. C'est une idée franchement ridicule, je veux dire, d'essayer de mais il y avait, j'étais carrément appelé. Et pour Dune, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est comme un appel. C'est un roman que j'ai découvert par hasard à 13 ou 14 ans et qui depuis 40 ans m'habite. Et je sais que j'ai parfois eu des choix déchirants à faire et que Dune revenait vers moi constamment. C'est un roman, j'ouvre la première page, je recommence à lire quelques lignes et tout de suite je me sens chez moi, je sens que adolescent, j'étais maniaque là. J'étais vraiment maniaque de cette série de livres, je les ai tous lus plusieurs fois, j'étais reconnu pour être
vous parliez de peur il y a un instant, dominer sa peur pour survivre, c'est un peu le mantra de Paul, on est d'accord?
Oui, tout à fait.
Même si vous dites ne pas l'avoir éprouvé au moment de la préparation, est-ce qu'il y a un moment, je ne sais pas, pendant le tournage, peut-être aujourd'hui, alors que le film sort, que toute cette histoire se résout, est-ce que cette peur vous a fini par vous toucher ou pas?
Moi, je suis quelqu'un qui est angoissé au quotidien, qui est angoissé face au futur. Je suis quelqu'un qui est... Mais quand c'est le temps de faire du cinéma, c'est ma racine avec le monde, c'est ma et ça, il y a comme une certitude. Et ça, j'ai de la misère à expliquer. Les gens qui m'entourent aussi ont de la misère. C'est l'espace où je suis serein.
Et après avoir parlé de sa relation avec l'image, parlons de la relation entre Denis Villeneuve et la pop culture. Que lit-il aujourd'hui? Que regarde-t-il? Qu'écoute-t-il? Réponse avec sa pop-list. Denis Villeneuve, quel est le film que vous regardez en ce moment, en dehors du vôtre?
Je dirais que, et pour revenir, parce qu'on m'a beaucoup posé de questions par rapport au streaming et au grand écran, parce que moi je suis quelqu'un qui veut se battre pour le grand écran et qui croit profondément à la proportion du grand écran, mais je dirais que c'est important que je dise que j'adore le streaming. Mm-hmm. Je trouve que c'est un outil absolument extraordinaire pour revisiter l'histoire du cinéma et ça m'a sauvé la vie pendant la pandémie. C'est-à-dire que avec Criterion, j'ai revisité plusieurs grands classiques. Mais je dirais que dernièrement, je pense que le dernier film que j'ai revu, un film qui me subjugue à chaque fois, c'est un des films que j'ai le plus vu dans ma vie, c'est Apocalypse Now.
Ouais.
C'est le dernier film que j'ai revu qui est de loin un de mes films préférés.
You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the colonel's command.
Terminate with extreme prejudice.
Very obviously, he has gone insane.
This is the end, my only friend, the end.
Are you an assassin? I'm a soldier.
Il y a certains éléments qu'on peut retrouver avec mon designer. On pensait beaucoup à Apocalypse Now. Il n'y a aucun rapport entre Dune et Apocalypse Now, mais il y a beaucoup en commun aussi en même temps. Il y a quelque chose dans cette idée d'un personnage qui s'enfonce dans un paysage, ce mouvement d'introspection même dans le paysage. Il y a quelque chose de similaire entre dans la structure des deux films, mais c'est un film qui encore aujourd'hui sur le colonialisme, sur la quête d'identité, qui me bouleverse à chaque fois.
Quel est le livre que vous lisez en ce moment, en dehors de Dune, bien entendu?
Je commence à l'instant, j'en suis à quelques pages seulement, mais Le Royaume d'Emmanuel Carrère, c'est ça? Qui est un roman qui m'a été hautement recommandé et et ça fait longtemps que je veux lire. Cette idée d'aller démystifier et de, je pense, replacer l'histoire du Christ dans un certain réalisme. C'est ce qu'on m'a expliqué. Ça m'appelle beaucoup. J'ai très hâte de le lire. Je dirais que ouais, faire un film sur le Christ, c'est que ça serait quelque chose qui pourrait vraiment me fasciner. Ça, faut faire attention à ce que je dis maintenant.
Oui,
il y a quelque chose dans cette figure qui est dans l'humanité qu'on pourrait apporter, dans le désacralisme, aller voir vraiment la puissance de son message en dehors de tout ce qui est... Il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser.
Et de faire un film sur un messie en même temps.
Oui, tout à fait. Oui, c'est pas une coïncidence.
Le format de série vous intéresse? Est-ce que vous en regardez? Si oui, laquelle a votre préférence?
J'ai beaucoup aimé The Last Dance, cette série de documentaire sur Michael Jordan. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça assez fulgurant, puis ouais, c'est ça.
As hundreds of thousands of fans cheered the Bulls, the drama of what will happen to this great dynasty was apparent to all.
This will be Phil's last year as the coach of the Bulls. At the conclusion of the year, we'll look towards the future.
After the fifth championship, we realized, other than Michael, the rest of the guys were probably at the end of their high productive years. And we realized maybe this was the time to do a rebuild and not try to win a sixth championship.
Quelle est la musique avec laquelle vous vous endormez?
Le silence. Mais je dirais que Leonard Cohen est quelqu'un qui me fait toujours le plus grand bien. Voilà.
Une chanson en particulier?
If It Be Your Will de Leonard Cohen est une chanson que j'affectionne tout particulièrement.
Eh bien, votre désir est exaucé. Nous allons l'écouter tout de suite.
If it be your will that I speak no more, my voice be still as it was before. I will speak no more. I shall abide until I am spoken for. If it be your will. If it be your will that a voice be true from this broken hill, sing to you from this broken hill. All your praises they shall ring, if it be your will to let me sing.
Your Will, c'est un morceau de Leonard Cohen sélectionné par Denis Villeneuve, programmateur musical éphémère de France Inter aujourd'hui, pour terminer cette émission spéciale Dune. Dune, c'est à découvrir de toute urgence mercredi, et spoiler, c'est une pépite. Le livre de Nicolas Allard, Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction, s'est édité chez Duno. Et signalons aussi ce MOOC, dirigé par Lloyd Cherry, tout sur Dune, aux éditions L'Atalante et Léa, qui satisfera les plus exigeants. Voilà, merci Charline.
Merci Antoine. Je tentais le Bene Gesserit, mais ça ne marche pas des masses, j'ai l'impression.
J'aime bien, faites-le moi.
Mais je ne vous ai pas donné d'ordre. Allez, en même temps. Merci Antoine.
Merci Charline, et merci aussi à toute l'équipe de Pop Pop et à Mathias, à Léon qui était à la technique aujourd'hui. Demain, Parcells nous offre le premier live de la saison sur la scène de Pop Pop et nous parlerons de la nouvelle saison, non pas de Pop Pop, mais de Sex Education avec un de ses comédiens, Sami Outalbali. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets, 3615 Pop Pop Pop.